Signe des temps, Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Depuis le 30 janvier, le dramaturge Thomas Ostermayer met en scène au Théâtre des Abbesses à Paris le spectacle « Histoire de la violence », adapté du livre autobiographique du même titre signé Édouard Louis, très grand succès de librairie en janvier 2016. Écrit en collaboration avec l'écrivain, la pièce, comme le livre, raconte comment à 4 heures du matin, après un dîner de Noël, Édouard rencontre dans une rue de Paris un jeune kabyle du nom de Reda, comment tous deux terminent la nuit dans l'appartement d'Édouard et comment au réveil, Reda, soudain agressif, se jette sur Édouard, le frappe, le viole et disparaît. Réalité, fiction ou autofiction, dans la pièce comme dans le livre, Édouard voit ensuite son histoire déformée successivement par les policiers face auxquels il rechigne à porter plainte et par sa sœur à qui il s'est confié et qui fait le récit de ses confidences à son mari. Dans la vie réelle, quelqu'un d'autre vient contredire le récit d'Édouard Louis, le vrai Reda, arrêté par la police en janvier 2016, par coïncidence 2 jours seulement après la sortie du livre. Dans la vraie vie, Reda est un sans-papier qui nie l'accusation de viol et a fait 11 mois de prison en préventive en raison de la plainte d'Édouard Louis. Coïncidence encore, alors que s'ouvrait la pièce d'Ostermayer et d'Édouard Louis le 30 janvier dernier, on annonçait, après plusieurs années d'instruction, la date de la tenue du procès pour le mois de mars prochain. Dans la littérature française, l'autofiction, le roman où tout est vrai sont aujourd'hui la norme, mais à quel prix ? Au carrefour de plusieurs problèmes, l'affaire Louis Reda semble en passe de devenir sur le sujet un vrai cas d'école. Pour en parler aujourd'hui avec nous, Laure Murat, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne et écrivaine française, auteure en 2018 de Une révolution sexuelle, réflexion sur l'après Weinstein, mais aussi de plusieurs livres de réflexion sur la littérature, comme Relire, enquête sur une passion littéraire, Flaubert à la Motte-Piquet, Passage de l'Odéon, Sylvia Beach, Adrienne Monnier et La vie littéraire à Paris dans l'entre-deux-guerres. Annie Jouan-Westlund, bonjour. Si vous m'entendez par téléphone.
Oui, je vous entends.
Oui,
très bien.
Bonjour. Vous êtes professeur de littérature française contemporaine aux États-Unis, spécialiste du récit autobiographique. Vous avez étudié notamment le récit autobiographique chez Simone de Beauvoir et surtout chez Serge Dubrovski, l'inventeur de l'autofiction, et aussi chez Annie Ernaux. Et vous avez écrit sur Édouard Louis et spécifiquement sur l'histoire de la violence. Françoise Lavocat, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de littérature comparée à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, membre de l'Institut universitaire de France. Vous avez publié de nombreux ouvrages, la théorie littéraire des mondes possibles, interprétation littéraire et sciences cognitives, et plus récemment Faits et fictions pour une frontière aux éditions du Seuil. Et enfin Marie Dauzé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate. Libération vous décrivait dans un portrait de vous en 2016 comme pugnace, motivée, impliquée, une des meilleures avocates de ce pays, je cite. Vous publiez en ce moment Les Victoires de Daesh, qui est une critique de la justice antiterroriste. Avant cela, vous avez planché sur des dossiers assez lourds, les affaires Karachi, Boulin, l'affaire de Tarnac aussi, et vous défendez l'homme qu'Édouard Louis accuse de l'avoir violé. Alors avant de se lancer dans la discussion, on va parler peut-être du livre L'histoire de la violence. Vous l'avez toute lue. Est-ce qu'on peut en faire un qui veut en faire une lecture avant de discuter du sujet, Laure Murat?
Oui, je veux bien. Moi, ce qui me frappe le plus dans ce livre, c'est que ça s'appelle Histoire de la violence. Et cette histoire de la violence, qui est un hommage à, enfin d'après l'auteur, un hommage à Michel Foucault, à Histoire de la folie et à l'histoire de la sexualité, s'engage donc à réfléchir sur ce que c'est que la violence, notamment la violence des discours. Je pense notamment au discours de la sœur ou au discours de la police ou au discours de la psychiatrie, des choses dont Michel Foucault a beaucoup parlé et qu'il a nommé, entre autres, dispositifs, et qui sont des violences, évidemment, qui contraignent les sujets et les corps. Bon. Mmh. Donc, c'est explicitement une réflexion là-dessus.
Et qui, dans le livre, comme dans la pièce, encadre, en fait, le récit qu'Édouard Louis tente de faire de ce qui lui est arrivé.
Voilà. Mais le livre aurait aussi pu s'appeler, curieusement, « Histoire de la vérité ». Et « Histoire de la vérité », en ce qu'elle rencontre la violence. Mmh. Hein, parce qu'il y a une vérité littéraire qui serait supérieure à tous ces discours. Et c'est ça, c'est là que moi j'ai un peu, enfin, beaucoup de questions là-dessus. Puisque Édouard Louis à la publication de son livre, a dit « Oui, c'est un roman en ceci que c'est une construction littéraire, mais il n'y a pas une ligne de fiction dans mon livre, tout est vrai ». Et il a même ajouté « J'ai pensé à changer le prénom du garçon, et puis finalement, je ne l'ai pas fait ». Donc là, on arrive à un carrefour qui est intéressant, puisque si vous dites à la fois « Ce qui est roman, ce n'est pas de la fiction, mais c'est une construction littéraire qui est chargée de dire la vérité », où toute vérité, où tout fait est réel et avéré, selon l'auteur, bien sûr, et que la vérité est aussi une histoire de mise en scène, mais surtout de restitution du réel, vous faites un dossier à charge qui est extrêmement grave, puisqu'il s'agit, d'après le livre, d'un viol et d'une tentative d'homicide. Oui. À la fin, pourtant, Édouard Louis, puisque j'ai pas appelé le narrateur ou l'auteur, c'est Édouard Louis, va quand même dénoncer ce garçon à la police, à son corps défendant, poussé par deux amis. Donc, vous avez... Je crois que en quoi ce livre est différent de tout ce qu'on a pu voir par rapport à l'autofiction, le roman autobiographique, etc. C'est que là, quand la littérature n'a jamais à être une pièce à conviction dans un cadre juridique, il y a une sorte de... de rencontres malencontreuses, puisque le reda en question a été arrêté, et donc le livre devient un instrument de violence absolument effrayant. Et quelqu'un qui, comme Édouard Louis, qui réfléchit beaucoup à ces questions, j'aurais été intéressée de savoir qu'est-ce qu'il pense de ça.
Alors, Annie Jouan-Westlund.
Oui, alors moi je suis d'accord, tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais ce qui est encore plus paradoxal dans cette histoire, dans ce récit, c'est que il essaie en fait de retracer les mécanismes de la violence à un niveau plus symbolique, je pense, et met en perspective son agression dans une structure particulière si on regarde le récit de près, notamment avec une polyphonie des voix, une mise à distance des faits qui est bien dessiné dans le récit, et finit paradoxalement par essayer de disculper son agresseur.
Oui, c'est un des problèmes.
Le résultat est-il là? C'est ça le problème. Il sonde sa propre interprétation de l'événement, et je pense qu'aussi, vous avez cité Foucault, mais je pense que c'est aussi une application dans ce récit d'Édouard Louis, de l'autre texte beaucoup plus récent, Penser dans un monde mauvais, de l'un de ses amis, et Geoffroy de la Garnerie, pour dévoiler les multiples aspects de la violence plus symbolique, comme vous l'avez dit, le racisme, la police, à l'hôpital, etc., mais aussi une défaillance du langage à pouvoir exprimer cette violence qui me semble intéressante.
Françoise Labocca.
Moi, je voudrais aussi resituer un peu ce livre dans le contexte actuel de rejet, de haine de la fiction, dont précisément, d'ailleurs, Édouard Louis se fait un porte-parole. Hein, dans une interview de 2018, il raconte comment il a été révolté par une interview de Le Clésio. Il ressentait du dégoût. Hein, pendant que son père est malade, des gens s'amusent, je cite, à inventer des personnages plutôt que de parler de nous. C'est une scène originelle, c'est un des événements qui a fait que je n'ai jamais pu écrire de fiction. Donc il est effectivement dans une posture politique qui est de ne pas écrire de fiction. Écrire de la fiction est indécent. Or, moi, ce qui m'a frappé à la lecture de ce livre, c'est qu'à la fois... il revendique l'authenticité, et au moins à trois reprises, il suggère que l'auteur ment.
Oui.
À trois reprises. Au moment où Reda le braque avec un revolver, il y a un passage, est interpellé le passage... devant la police, où il ne se souvient plus, il ne sait plus, la répétition mange la réalité. Il y a un passage, je ne vais pas être trop long, mais absolument incroyable, page 204, un long développement sur le mensonge, où il utilise
volontairement à contresens, en lui faisant dire l'inverse de ce qu'elle veut dire, une longue citation d'Hannah Arendt.
Oui, on va en parler tout à l'heure.
On va en parler tout à l'heure. Oui. Bon, et finalement, on en reparlera aussi tout à l'heure, la très gênante, à mon avis, citation d'Imre Kertész à la fin, oui. Hein, qui suggère que toute la réalité, ce n'est que la souffrance, ce ne sont pas les faits. Mm-hmm. Donc, c'est un contrat de lecture extrêmement paradoxal, inconfortable et qui a des conséquences, à mon avis, en effet très graves.
Oui, c'est-à-dire que oui, on est un peu dans un cas d'école de qu'est-ce qui se passe quand on prétend abandonner la fiction, quoi. Marie Dauzet, on parlait tout à l'heure du livre comme pièce à conviction. Vous êtes l'avocate du vrai Reda. Vous avez versé le livre au dossier.
Oui, j'ai demandé à ce qu'il soit...
Ce qui est un paradoxe, d'ailleurs, comme ça, à première vue.
Oui, non, c'était pas paradoxal, parce que les déclarations d'Edouard Louis dans le cadre de la procédure judiciaire n'ont pas grand-chose à voir avec ce qui est écrit dans ce livre. Et que dans ce livre, on nous explique qu'il n'y a pas, effectivement, comme le dit Laure Murat, une ligne de fiction, et que tout est vrai. Et en réalité, tout ceci mis bout à bout démontre qu'il y a quand même énormément de contradictions dans ce qui est asséné, sur ce qui s'est réellement passé. Et puis... Moi, je défends quelqu'un qui clame son innocence depuis maintenant des années. Et je peux vous assurer que c'est peut-être un cas d'école dans un registre strictement littéraire, mais que juridiquement et pénalement aussi. Est-ce que vous pouvez imaginer tout de même que Édouard Louis confisque la parole de Reda, mais confisque la parole de Reda de A à Z, que tous les soirs au Théâtre des Abbesses, vous l'avez dit tout à l'heure, se joue la scène du viol, alors même que Reda dit « mais moi je suis innocent », que la présomption d'innocence de Reda, elle est broyée artistiquement et judiciairement aussi, que lorsque je vais arriver devant le tribunal correctionnel dans quelques temps, on jouera la scène de viol en même temps que je plaiderai sur une scène de théâtre. Et que c'est quand même exceptionnel de la part de quelqu'un qui passe son temps à expliquer qu'il défend les minorités, d'avoir à ce point confisqué cette parole. Il a décidé de qui était Reda. Il a décidé de son profil psychologique. Il a décidé de son histoire, qui n'est pas du tout finalement celle qu'il essaye d'esquisser dans son roman. Il a même essayé d'expliquer que Reda s'est comporté comme ça parce que c'est un homosexuel d'origine kabyle et que l'homosexualité dans ces pays-là, etc., etc. Il a véritablement fait de Reda non pas un personnage, mais un violeur dont il détermine chacun des traits. Et moi, j'ai dans cette procédure énormément de difficultés. D'abord, il est allé jusqu'à dire... Mais vous savez, s'il est sorti de prison, c'est quand même un peu grâce à moi. Et puis moi, je suis contre la prison, et quelque part, je ne voulais pas qu'il aille en prison. Mais je vous répète quand même que Édouard Louis a refusé une confrontation avec Reda. Reda, depuis son placement garde à vue, demande à être simplement confronté à celui qui l'accuse.
Oui,
et Édouard Louis le refuse, alors même que par contre, il n'a aucune difficulté à mettre en scène tout ceci, sur scène, depuis des semaines. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un mélange des genres qui ne correspond pas à ce qu'affiche Édouard Louis dans son militantisme et dans cette façon qu'il a d'asséner la probité d'une certaine gauche. Et que moi, je défends quelqu'un qui est littéralement broyé et qui, chaque matin, n'est rien d'autre qu'un violeur alors qu'il n'a même pas été jugé.
Alors, c'est une des choses qu'Edouard Louis répète constamment, à la fois dans la réalité et sur scène, et dans le livre, c'est mon histoire. Et curieusement, il dit à la fois c'est mon histoire et à la fois je ne veux plus entendre parler de cette histoire. Ça revient constamment. C'est très étrange. On va regarder en détail, mais je voudrais rappeler un peu pour les auditeurs le détail des faits. Raconter un peu l'histoire, justement, les faits, comment ils se sont déroulés. Ça se déroule le 24 décembre 2012. Édouard Louis, qui est encore Eddie Bellegueule à 20 ans, sort d'un réveillon avec Didier Héribon et Geoffroy de la Gannerie. Héribon est le spécialiste de Foucault. Il est déjà connu pour avoir écrit Retour à Reims. Et il est le mentor d'Eddie Bellegueule, qui a été son élève à l'université de Picardie. Et place de la République, donc, Eddie rencontre, on peut dire son nom, puisqu'il est sorti dans la presse, hein, il est sorti dans l'Express, Riyad Belferro. Le ramène chez lui, ils boivent de la vodka, Riyad lui explique qu'il est kabyle, ils font l'amour et puis ça dégénère. Et le lendemain, Eddie, retrouvant Héribon et la gannerie, se laisse convaincre d'aller porter plainte pour viol sous la menace d'une arme et vol aggravé. En 2014, 2 ans plus tard, sort En finir avec Eddie Bellegueule, qui est un succès, qui lance Eddie Bellegueule, qui devient Édouard Louis. C'est un succès international. Édouard Louis devient l'une des figures de l'autofiction et de l'écriture de soi. Et puis en 2016, sort Histoire de la violence, estampillé roman, effectivement, qui raconte cette agression, qui est un succès aussi, hein, 100 000 exemplaires vendus, et dans lequel il raconte que c'est après à vous s'être rendu compte que Riyad, rebaptisé Reda, lui aurait volé son iPad et son iPhone, qu'il aurait braqué un revolver sur lui, essayé de l'étrangler, et enfin il l'aurait violé. Et c'est ensuite qu'il va porter plainte. Et il déclare effectivement à Livre Hebdo au moment de la sortie du livre, « Mon obsession, c'était d'écrire la vérité. Dans ce livre, comme dans le suivant, il n'y a pas une ligne de fiction. La structure est fictionnelle, mais tout est vrai, y compris le prénom du garçon. » C'est ce qu'il a répété à Mouloud Achour le 7 février dernier. On va écouter le tout début de cet entretien, qui est d'ailleurs un modèle du genre, parce qu'il est, en termes d'absence d'esprit critique, hein, l'interview faite par Mouloud Achour d'Edouard Louis était assez hallucinant à regarder. On écoute cet extrait.
Le point de départ de cette histoire, c'est un fait qui m'est arrivé, puisque j'écris des livres seulement autobiographiques, que écrire de la fiction m'a jamais vraiment beaucoup intéressé. Et c'est l'histoire d'une rencontre, une nuit que j'ai faite avec un garçon, place de la République, il y a plusieurs années maintenant, il y a 8 ans. On est allé chez moi, on a fait l'amour plusieurs fois, on a parlé de sa vie, de ma vie. On a eu des échanges assez intenses pour une rencontre d'un soir comme ça. Et puis à un moment, quelque chose a basculé. Il est devenu très violent. Il m'a violé, il a essayé de me tuer. Et il me disait, t'es qu'un espèce de sale pédé. Alors même qu'on avait fait l'amour ensemble plusieurs fois avant. Il me répétait, t'es qu'un sale pédé. Je vais te buter, sale pédé. Et immédiatement après que cette histoire a eu lieu, j'ai eu envie de... Pas envie, je sais pas, mais j'ai eu la nécessité d'écrire là-dessus pour comprendre ce qui s'était passé, pour essayer de faire une sorte de, justement, d'archéologie de cette violence.
Alors, donc c'est toujours encore aujourd'hui présenté comme absolument authentique. L'histoire est vraie, quoi. C'est tout de même, Françoise Lavocat, est-ce qu'on n'a pas ici quand même un exemple de ce qui se passe quand on abandonne toute fiction?
Bah, certainement, même si c'est un cas assez incroyable, ce n'est pas la première autofiction qui finit devant les tribunaux. Hein, Camille Laurence, Christine Angot, l'autofiction, les faits ne sont pas seulement têtus, comme ils impliquent des personnes, ils se retournent souvent contre les auteurs d'autofiction. En effet, c'est un contrat... comme je disais, c'est un contrat de lecture vraiment très pénible et tout à fait périlleux. Hein.
Oui, l'un des cas d'école reste reste Serge Dubrovski et le livre brisé, qui n'avait pas donné lieu à de procès, mais qui avait dégénéré complètement, puisque l'épouse de Dubrovski est morte dans des conditions qui n'ont jamais été complètement éclaircies, mais que certains ont attribué à un suicide. Et Dubrovski lui-même n'est pas complètement clair sur quand il en parlait. Donc il y a quelque chose d'effectivement de monstrueux dans cette démarche, mais qui se double là d'une dimension politique directe. Oui, Marie Dosé.
Oui, non, ce qui est difficile là, enfin ce qui est plus particulier quand même, c'est l'ambiguïté. Oui. L'ambiguïté d'Edouard Louis, qui a des souvenirs extrêmement précis lorsqu'il écrit, mais qui ne se souvient plus de rien lorsqu'il est interrogé par un magistrat instructeur. Strictement rien. Et voilà, et qui ne peut répondre que je ne sais pas, je ne sais plus, je ne sais pas, je ne sais plus. Et ça, c'est quand même assez problématique. J'entends ce qui vient de nous être diffusé. Mais attention, Édouard Louis, dans une procédure, c'est aussi celui qui dit « Je veux un non-lieu, je rêve qu'il n'y ait pas de procès, je n'ai pas été bien pendant 2 semaines après tout ça et c'est tout, je redoute le procès, la publicité autour. 15 jours après, je ne pensais plus aux faits, mes amis m'ont forcé à déposer plainte, Reda est parti facilement alors qu'il aurait pu en faire plus. » Voilà, ce qu'il explique à l'expert. Mais très sincèrement, il y a un gouffre entre ce qu'il fait de cette histoire dans ce livre et ce qu'il arrive à murmurer à peine dans le cadre de la procédure judiciaire. Et il ne peut pas nous dire « c'est parce que je suis contre la prison, c'est parce que Reda est un pauvre SDF sans papier que je ne veux pas qu'il reste en prison ». Son avocat s'est rendu devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris quand j'ai demandé sa mise en liberté pour expliquer que quand même, SDF et sans papier, ça posait un problème pour qu'il soit remis en liberté. Il a refusé la confrontation, alors même que cette confrontation, elle était évidemment liée au contentieux de la détention. On ne pouvait pas placer sous contrôle judiciaire Reda tant qu'il n'avait pas été confronté à Édouard Louis. Et Édouard Louis a mis 9 mois à dire « bon bah finalement je ne veux pas être confronté à mon prétendu agresseur ». Donc c'est, si vous voulez, c'est cette ambiguïté qui est terrible. C'est que d'un côté vous avez une vérité littéraire assénée, mais qui n'est pas une vérité littéraire, qui est la vérité, la sienne. C'est son prisme et il n'y en a pas d'autre. Reda n'existe pas dans tout ça. Je lui confisque et sa présomption d'innocence et ce qu'il est. Mais par contre, judiciairement, eh bien, je ne supporte pas cette procédure et je ne me souviens plus de rien. Mais en même temps, je me constitue partie civile. Mmh, mmh. Parce que si véritablement la justice, comme il le dit, est une justice raciste, indécente, que les policiers sont tous racistes, ben, il ne se constitue pas partie civile. Mais donc, il est sur tous les tableaux, et finalement, il y a une victime dans tout ça, c'est Reda. Parce que l'histoire de la violence de Reda, personne n'en parle.
Mais une des choses qui apparaît, est-ce que cette façon comme ça de happer la parole, en fait, effectivement, quand on voit le spectacle, quelles que soient les qualités du spectacle d'ailleurs, et quand on lit le livre, il y a effectivement qu'une seule position qui est affirmée, qui est celle d'Édouard Louis. Les autres n'interviennent en quelque sorte que pour la renforcer. Est-ce que c'est pas la conséquence de l'abandon de la fiction, l'absence de l'autre, en fait?
Ah oui, je crois que il y a vraiment un cran supérieur, en quelque sorte, parce que... Alors, ce qui est intéressant dans l'autofiction, peut-être il faudrait rappeler très rapidement ce que c'est et comment ça se distingue, notamment du roman autobiographique. L'autofiction, c'est, à ma connaissance, le seul mouvement qui soit né d'un problème théorique. Et ce problème théorique a été posé par Philippe Lejeune dans un livre qui s'appelle « Le pacte autobiographique », où Philippe Lejeune essaye justement de distinguer le vrai du faux, de la fiction, de l'autobiographie, des mémoires, etc. Et il fait un tableau à double entrée. Alors il dit, pour qu'il y ait autobiographie, il faut qu'il y ait deux conditions. La première, c'est l'auteur s'engage à dire la vérité, sa vérité, mais disons, voilà, le plus objectivement possible. Et la deuxième condition, c'est que l'auteur égale le narrateur, égale le personnage principal. C'est-à-dire qu'il porte le même nom. Ça c'est la condition de l'autobiographie. Dans le tableau de Philippe Lejeune, il y a une case vide qui serait le cas d'école suivant. L'auteur égale le narrateur, égale le personnage principal. Mais il y a marqué roman et c'est une fiction. Comment est-ce possible?
Ce qui est le cas d'Histoire de la violence.
Ce qui est exactement le cas de Histoire de la violence. Sauf que, mais pas tout à fait, parce que Histoire de la violence ne se présente pas comme une fiction.
Non.
Puis c'est ça le problème. Alors, pour remplir la case vide, c'est Serge Dubrovski qui, quand il voit ça, dit « ben moi, cette case vide, je vais la remplir, je vais écrire un livre en tant que Serge Dubrovski, mettant en scène Serge Dubrovski qui sera le narrateur, mais il y aura marqué roman ». Et voilà, donc... je m'arroge le droit de distribuer le vrai du faux, tout en ayant évidemment l'apparence nominale de la vérité. Et bon. Mais dans Histoire de la violence, c'est différent. Puisque même s'il y a écrit roman, Édouard Louis dit à qui veut l'entendre que le roman est pour lui détaché de la fiction et que ça n'est que la vérité qui l'intéresse. Je remarque que ce projet de vérité, alors c'est plus la vérité historique, c'est la vérité hystérique est un projet qu'il porte depuis le départ, puisque dans « En finir avec Eddie Bellegueule », dans un entretien qu'il a donné à la suite de la publication, il a dit « j'avais même le projet de mettre des photographies dans le livre, comme si la photographie était là pour ratifier la véracité de son propos ». Donc, l'histoire de la violence n'a de roman que le nom. Qu'est-ce que veut dire roman aujourd'hui? Parce que je crois que c'est ça le problème.
Oui, c'est le problème de fond.
Voilà. Alors, que le roman soit lié à la fiction, bon, Édouard Louis dit que historiquement, rien ne le prouve. C'est quand même, jusqu'à Nouvel Ordre, c'était quand même une œuvre d'imagination. Alors, je ne dis pas qu'il ne faille pas beaucoup d'imagination pour dire la vérité. Ça, c'est encore une autre question. Mais enfin, disons que le roman s'est éloigné avec l'autofiction, qui est un brouillage entre la vérité et la fiction. Là, il n'y a pas, dans l'histoire de la violence, il n'y a pas volonté de brouillage. Il y a, je dis, la vérité tout entière. Vous connaissez la phrase de Lacan, je dis toujours la vérité, pas toute. Et Christine Angot avait d'ailleurs, sur ces sujets d'autofiction, repris cette citation en disant « Il n'y a que les écrivains qui disent toute la vérité ». Donc, ce que je crois, c'est qu'on n'est plus du tout dans une logique, disons, pour ceux qui connaissent, à la Marthe Robert qui disait « mensonge romanesque, vérité littéraire ». Donc, la vérité viendrait de l'énonciation. Hein, mais que la vérité est tout entière dans un livre, et évidemment avec un narrateur et un auteur tout puissant.
Oui. Mais les Américains ont inventé une catégorie qui est le roman non fictionnel, hein, Truman Capote, Norman Mailer, tout le nouveau journalisme. Mais c'est quelque chose de très différent, c'est-à-dire que c'est une forme littéraire, c'est du journalisme littéraire en réalité, où les faits sont toujours scrupuleusement respectés, autant que possible en tout cas. Et quand ils ne le sont pas, l'auteur prend la peine de dire qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Ça n'empêche pas certaines ambiguïtés, notamment notoirement dans De sang-froid, où il y a l'implication de l'auteur qui est complexe. Mais c'est quand même quelque chose de très différent. Là, ce à quoi on a affaire, c'est une forme. Est-ce que c'est pas une forme de romantisme où l'écrivain est censé c'est avoir une sorte de vérité transcendante du seul fait qu'il prend la plume, Françoise Lavocat.
Oui, d'autant plus, en effet, que le contrat de lecture est quand même un tout petit peu compliqué, je crois, que ce qui vient d'être dit, puisque, je le répète, il y a plusieurs passages qui font l'éloge du mensonge et qui oui. suggèrent que la vérité n'est pas adéquation au fait qu'elle est subjective, que c'est la vérité de la souffrance. Et ça, c'est profondément romantique. Alors, je disais tout à l'heure, mais ce qui me gêne énormément, c'est que cela soit dit à travers une citation d'Imre Kertész et mettre implicitement en parallèle la souffrance d'un rescapé d'Auschwitz et celle d'Édouard Louis.
Oui, tout à fait.
Semble quand même très...
Non, il y a un vrai problème. Annie Jouan-Westlund, est-ce qu'il n'y a pas, dans cette pratique, le paradoxe, est-ce que c'est pas que Édouard Louis, finalement, veut abandonner la fiction pour des raisons à la fois morales et politiques, parce que la fiction est censée être quelque chose de bourgeois, il faut dire la vérité, mais qu'en même temps, en procédant de la sorte, il abandonne toute ambition éthique, en fait.
Je ne sais pas si, selon lui, il abandonne une ambition éthique. Je pense qu'il correspond aux personnes qui utilisent l'autofiction. Pour revenir à la définition de Dubrovsky, une fiction de fait strictement réelle. Et pour construire une vérité, en fait, à travers le travail de l'écriture, du langage, parce qu'il faut quand même aussi ajouter que l'autofiction ou les écrits de nature autobiographique sont souvent utilisés pour exposer des expériences douloureuses. C'est le cas pour beaucoup d'écrivains sur évidemment le viol, la folie, la maladie, la mort d'un enfant, et que c'est à travers cette forme d'écriture, la fiction, que l'écrivain tente de trouver un sens à ce qui lui arrive. Mais évidemment, la quête de cette vérité, qui est une vérité plus intime, je dirais, que vérité factuelle ou un paysage mental, cette vérité peut blesser l'autre. C'est le cas donc de ce livre. Ce qui m'intéresse dans l'extrait qu'on a entendu d'Édouard Louis, c'est qu'il y a vraiment un décalage entre le discours médiatique. Il faut faire une différence entre le discours médiatique qu'il a là et l'écrit. Mmh. À mon avis, le livre lui-même est beaucoup plus complexe.
Alors, oui, mais c'est une
Références.
Oui. Oui. Oui, non, allez-y.
Il y a des références littéraires, etc., qui posent problème. Je suis d'accord avec ça, mais tout de même, sa tentative de faire entendre plusieurs voix dans ce livre, notamment avec sa sœur Clara. Après tout, le livre s'ouvre sur le récit de l'agression fait par cette sœur, écoutée derrière une porte. Tout ça indique une méfiance vis-à-vis du langage, de mettre à des mots à quelque chose qui est inaudible, qui est impossible à expliquer. Et je crois qu'il faut quand même faire une différence entre ce qu'il raconte à la radio sur le procès, etc., et le fait qu'il ne veuille pas assister au procès, qu'il veuille donner aucun commentaire là-dessus. Je pense que c'est cette ambiguïté et cette différence entre le réel et la fiction. À mon avis, Édouard Louis est vraiment intéressé par le travail de l'écriture, le travail littéraire. Et d'ailleurs, quelqu'un a dit qu'on n'entend que sa version à lui, à travers la pièce, à travers le livre. Mais il faut quand même aussi penser qu'il y a eu une version, l'effraction de Omar Ben Lala, qui a été faite une autre version de...
Oui. Omar Ben Lala a publié un livre dans lequel il raconte la version de Reda, effectivement, oui.
Exactement. En fait, c'est le point de vue d'un jeune qui a dit dans un dispositif narratif complètement inversé, et qui, lui, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de viol dans sa version à lui, tel qu'on peut l'entendre. C'est en fait un viol culturel. Il reprend, en fait, l'histoire d'un point de vue d'une réappropriation culturelle, puisqu'il dit que c'est pas à quelqu'un comme Édouard Louis de reprendre l'histoire d'un Algérien, parce que c'est ce qui se passe dans le livre aussi. Il y a cette partie-là qui est très intéressante. Il essaie de reprendre, de donner au lecteur une perception de l'histoire de son agresseur, mais évidemment c'est inventé, parce qu'on a du mal à se dire que cet agresseur lui aurait tellement donné d'informations pendant cette soirée.
C'est un des passages les plus faibles du livre d'Édouard Louis. Il a tout le passage sur le père et sur les foyers que son accotera. C'est pas crédible une seconde. Mais effectivement, vous avez raison de rappeler le livre sur Reda, le roman sur Reda. Mais là, on a un problème, c'est que on se retrouve avec précisément, enfin, où conduit l'abandon de la fiction. C'est-à-dire d'un côté la dénonciation de l'appropriation culturelle, de l'autre une absence. C'est quand même ce qui caractérise paradoxalement l'histoire de la violence qui se réclame de l'écriture de soi, mais d'où la subjectivité en fin de compte est assez absente, c'est-à-dire que les personnages n'existent qu'en fonction de leur déterminisme socio-historique supposé, y compris assez curieusement Édouard Louis, mais il y a très très peu de choses, voire rien, sur ce que sont les êtres. La sœur dont vous parlez, elle n'existe qu'à travers des tics de langage, d'ailleurs pas complètement convaincants, qui sont censés montrer son milieu social. Et tout est plus ou moins à l'avenant. Le paradoxe étant que Reda, c'est celui qui s'exprime de la manière la plus claire, alors que c'est pas forcément le cas dans la réalité. Donc on a l'impression qu'on a quelque chose de très, au bout du compte, une tentative de d'écrire quelque chose, mais le résultat est quand même très confusionnant, sinon confus tout court.
C'est-à-dire que oui, il y a tous les déterminismes, en fait, comme vous parlez de Clara la sœur, je pense qu'elle est définie par son déterminisme social, ses types de langage, voilà. Comme vous dites, sa difficulté à comprendre aussi ce qui s'est passé, puisque souvent, dans le récit, Édouard Louis apporte des corrections ou il la contredit. Je pense qu'il essaie ici de donner l'impression d'un dialogue. Mais est-ce que ça marche vraiment?
Bah oui, c'est une des questions. C'est une des questions. Et Laure Murat là-dessus, sur cette absence de subjectivité.
Ce qui me frappe le plus, c'est le. Je crois que c'est un livre qui est aussi sur la maîtrise du récit et le détournement des discours. Je crois que c'est deux choses qui sont très importante dans la construction parfois un peu maladroite ou un peu heurtée de ce livre. Et on se retrouve paradoxalement, alors qu'il y a une tentative de faire des analyses ou même une déconstruction de certains discours, je pense notamment au discours de la police ou de la sœur, on se retrouve avec beaucoup de clichés. Qui pour le coup ne servent pas beaucoup la vérité. Si la recherche de la vérité est là, elle est pas très nuancée de ce point de vue-là. Et je vois là-dedans, mais je serais heureuse d'avoir les opinions des autres. une forme de victoire ou même de phagocytage de la sociologie sur la littérature. Et ça interroge beaucoup, je trouve. Il faut quand même préciser qu'Édouard Louis n'est pas le premier à faire ça, qu'Annie Ernaux a évidemment beaucoup exploré cette veine avec un grand talent. Cette obsession de la vérité est comme bizarrement, enfin pas bizarrement, très naïve, je dirais. Puisque si vous voulez réduire les êtres à leur discours ou à leurs origines, bah, vous tombez beaucoup dans des clichés et une espèce d'accumulation où seul le narrateur a la toute-puissance de la raison.
Et c'est d'ailleurs une toute-puissance qui est discutée même par lui, parce que il dit, par exemple, à un moment donné dans le livre, il dit que la police, conspue toutes leurs remarques déplacées, il voit tous les policiers comme racistes, donc en fait cliché, donc toutes leurs remarques déplacées et racistes, toute leur incapacité à saisir mon comportement, tout ce qui me faisait les haïr, mais ces mêmes policiers, écrit-il, étaient aussi une aide capitale décisive, ils représentaient un lieu où ma parole était à la fois possible et dissible, il est évident qu'ils m'ont aidé à me sentir autorisé à parler dès mon arrivée. Et plus tard, il dit, la police m'a volé mon histoire. Donc on est quand même dans une série de contradictions où même le discours du narrateur et le discours de l'auteur sont pas du tout clairs pour l'auteur lui-même, on a l'impression.
Je crois que c'est aussi le... Je crois qu'il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, mais qui pourtant est très présent dans le discours d'Édouard Louis, c'est celui de la domination.
Oui.
Et je crois que, à force d'analyser toutes ces dominations dont il serait la victime, il retourne l'arme d'une certaine façon et devient le dominant.
Il devient le dominant, oui.
Il devient le dominant. Et je ne suis pas complètement sûre à quel point, alors que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à ces questions, il prend conscience de ce retournement, eh bien, qui aboutit à la situation tragique qu'on connaît aujourd'hui avec Reda en prison, etc., etc.
Mais en plus, de surcroît, quand même, il ne faut pas oublier, alors je rebondis un peu sur la sphère judiciaire, parce que c'est important, dans un cas comme celui-là, Édouard Louis, qui est plaignant au départ, ne peut plus dire « j'ai menti ». Et ça, c'est quand même important. C'est important pourquoi ? Parce qu'il dépose plainte. Que Reda est interpellé 2 ans et demi, 3 ans plus tard. Que pendant 3 ans, il ne s'est absolument pas inquiété de cette procédure. Cette procédure, pour lui, elle était finie, elle n'existait plus. Il n'a jamais fait une seule démarche pour savoir ce qu'elle était devenue. Et puis le hasard des calendriers fait qu'effectivement, le livre sort et qu'il explique ce n'est pas une fiction, il n'a pas une ligne de fiction, tout est vrai, c'est d'ailleurs pour ça que mon livre existe, je veux la vérité. Quelques semaines plus tard, il apprend, parce qu'il apprend quelques semaines plus tard, que Reda est interpellé. C'est fini. Il ne peut plus dire « j'ai menti » ou alors « j'ai vécu une agression qui n'en est peut-être pas une, j'ai ressenti quelque chose qui n'était pas véritablement ce qu'il s'est passé ». C'est trop tard, parce que sinon tout s'écroule, et notamment son argument littéraire, ce qui fait qu'il existe comme écrivain. Et donc moi, avocat, je me retrouve dans la sphère judiciaire, piégé aussi par son propre piège. Et ça, c'est important quand même.
Qu'est-ce que vous voulez
dire ? Mais tout simplement parce que Reda, lui, n'a pas la force de parole d'Édouard Louis, que depuis 3 ans, je suis à chaque fois dans une représentation, pas artistique, mais d'une vérité qui est celle d'Édouard Louis, et que moi je n'ai pas la parole. Je n'ai jamais accepté de participer à une émission avant une audience. Pourquoi je le fais aujourd'hui ? Mais parce qu'il faut bien que Reda existe quelque part. Il faut bien à un moment donné qu'il puisse exister. Mmh. Et ça, il s'est piégé parce qu'il ne peut plus dire « j'ai menti », c'est
Edouard
impossible, et que du coup, il va aller jusqu'au bout de cette absolue vérité, jusqu'à la mettre en scène au théâtre en disant, et je cite, hein, voilà, j'en ai fait une pièce de théâtre, non pas pour accabler mon bourreau, mais pour tenter de le comprendre et pourquoi pas excuser ses actes. C'est fini, il est coupable, l'audience ne s'est pas tenue que c'est un bourreau qu'il veut comprendre et pourquoi pas excuser. Et tout ça, ça lui appartient. Il va lui-même sur scène comprendre, excuser son bourreau. Enfin, c'est quand même absolument... c'est la dénégation même de l'existence de Reda. Reda n'existe pas.
C'est
Reda
la dénégation de beaucoup de choses. C'est la dénégation de Reda, de la justice, de la littérature. Ah. Enfin, on arrive à quelque chose de très curieux. Françoise Labocal,
je voudrais revenir sur
quelque chose.
Oui, oui.
Oui, pardon, vous voulez me poser une question.
Non, non, oui, oui, je voulais vous poser une question juste sur est-ce qu'on n'a pas un problème de, enfin, est-ce que ce qui n'est pas problématique là pour tout le monde, c'est le statut des mots employés. C'est-à-dire, on ne sait plus quoi en faire. À force de chercher des mots qui incarnent la vérité, on ne sait plus du tout quel statut donner aux mots. C'est plus de la fiction, c'est pas de la vérité. C'est-à-dire ce brouillage dont vous parlez. Comment?
Bah, c'est du mensonge.
Ah, c'est du
de la fiction, c'est
oui.
du mensonge.
Voilà, oui, c'est ça.
Vous parliez tout à l'heure d'absence de subjectivité. Je voudrais revenir là-dessus parce que la subjectivité, il y en a beaucoup. C'est celle, effectivement, d'Édouard Louis. Mais ce qu'il n'y a pas, ce qu'il manque, ce sont des personnages. Et c'est effectivement la faiblesse du livre, c'est ce qui ressort. La sœur n'existe pas, Reda n'existe pas, il ne construit pas de personnages. Et finalement, est-ce que l'éthique, ce n'est pas de construire des personnages qui ont une subjectivité et qui existent? Je pense que c'est une conséquence du refus de la fiction, ce produit très étrange qu'est ce livre, même si... le dispositif est fictionnel d'une certaine façon parce que de le donner la parole à la sœur, c'est construire un discours fictionnel.
Oui,
on se
oui.
doute bien sûr, la sœur n'a pas pu prononcer ce long discours. L'ensemble du discours, du dispositif énonciatif est fictionnel, mais il y a un refus fondamental. Encore une fois, de la fiction dans le refus de construire des personnages, et c'est à mon avis le défaut éthique du livre.
C'est-à-dire, c'est ça. C'est-à-dire, on a un peu l'impression avec ce livre qu'on arrive à l'impasse d'une tendance de la littérature française contemporaine de passer par-dessus la fiction, parce que la fiction c'est censé être bourgeois, dépassé, 19e-iste, et en oubliant complètement quelle est la nécessité de la fiction, pourquoi est-ce que c'est nécessaire à un moment donné, et quels sont les enjeux à la fois éthiques et littéraires, dont Laure Murat.
Oui, je pense que ça appartient à, je vous dis, un mouvement beaucoup plus vaste en réalité, hein, beaucoup plus vaste et plus historiquement qui pourrait être tracé, cette obsession. Je crois d'ailleurs que la littérature a toujours été en quête de vérité.
Bien sûr.
Et de la complexité de celle-ci.
Bien sûr.
Tout concourt à penser aujourd'hui que seul l'écrivain ou l'écrivaine dit la vérité, c'est-à-dire seule la littérature peut. Alors après on revient à cette tarte à la crème de qu'est-ce que la littérature, même pas qu'est-ce que le roman, puisque le roman.
Mais c'est ce qu'on avait. Pardon de vous interrompre. Ce qu'on a vu par exemple un peu avec l'affaire Natsnef aussi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est écrit, c'est une vérité qui n'a plus rien à voir avec les faits. Peu importe les faits, si on atteint une vérité, je disais romantique tout à l'heure, mais quelque chose comme ça, ça se passe ailleurs, quoi.
Mais alors, dans le cas de Matzneff, pour revenir brièvement dessus, c'était des journaux qui n'ont jamais pris l'alibi de la fiction. Et je crois que là, on en a parlé un petit peu, mais il y a quand même la grosse friture sur la ligne, c'est la médiatisation.
Bien sûr.
Oui,
c'est quand Édouard Louis dit à Livre Hebdo, il n'y a pas une ligne de fiction, c'est quand il donne des entretiens. Et donc, ça, parce qu'il aurait laissé ça comme ça, sans rien dire, ça aurait été tout à fait différent. Matzneff, de la même façon, le fameux épisode qui est devenu viral à apostrophe, il dit oui, tout ce que je raconte dans mes journaux est vrai. Voilà.
Marie Dossé, une dernière question. On va arrêter cette émission dans quelques secondes. Le procès a lieu quand?
Dans quelques semaines, au mois de mars.
Au mois de mars.
Au mois de mars, voilà. D'accord. Mais encore une fois, la vérité judiciaire va nécessairement pâtir de cette vérité qu'on nous assène depuis 5 ans. People moving out, people moving in, why? Because of the color of the skin. Run, 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 but you sure can't hide.
C'était Signe des Temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Cyril Marchand, avec à la technique Élise Leu et à la réalisation Véronique Villa. Dans un instant, une histoire particulière.